Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis, et j'ai créé ce podcast pour aider celles qui, comme moi, ont envie de suivre une autre voie et sont passionnées de voyage. Le voyage m'a aidée à oser, et à travers ce podcast et le témoignage de ces femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage, j'espère que vous aussi, vous trouverez l'inspiration pour suivre vos propres envies. Et voici le dernier épisode avant la rentrée de septembre. Donc dans ce nouvel épisode, j'échange avec Céline, qui est aussi connue sous le nom de Is No Good sur les réseaux sociaux et via son blog. Céline est partie en avril dernier avec son copain pour un tour du monde sans avion. Dans cet épisode, elle nous parle de la naissance de ce projet, des alternatives à l'avion, des difficultés à, parfois, voyager écologique, et nous donne ses conseils pour réduire au minimum son impact en voyageant. Ah, et encore une petite précision, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement de ma voix, de mon côté donc. Vous entendrez le son de ma voix qui a été enregistré avec mon casque. Voilà, un petit désagrément, mais qui ne gêne pas l'écoute. Allez, bonne écoute! Bonjour Céline.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur De Vraie Vie. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, donc le voyage responsable et écologique. Parce que, en fait, voyager, bah, ça nous permet d'ouvrir notre esprit, d'être libre, de rencontrer d'autres personnes. Et en fait, on est de plus en plus nombreux à vouloir faire le tour du monde. Et c'est top. Mais d'un autre côté, on sait bien que prendre l'avion, bah, ça fait consommer énormément. Et ça peut donc ruiner tous les efforts qu'on fait au quotidien, voilà, d'un point de vue écologique. Ton copain et toi-même, vous êtes partis à la recherche d'alternatives pour contrer le voyage en avion. Avant de parler de ça, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement qui es-tu ?
Qui suis-je ? Je m'appelle Céline. J'ai un blog depuis 2 ans qui s'appelle Is Now Good et qui est avant tout dédié à la mode éthique et à un mode de vie et de consommation plus responsable en général.
T'as fait un master en école de commerce, t'as ensuite travaillé dans la finance et il y a 2 ans t'as démissionné. Raconte-nous un petit peu ce cheminement.
Je me suis retrouvée un petit peu catapultée dans ce domaine-là, dans la finance, en fait, juste après mon bac, sans jamais vraiment me poser de questions. Bah, j'ai fait 2 années de prépa, puis ensuite j'ai intégré une école de commerce, et ensuite, un petit peu comme ça, toujours sans jamais me poser de questions, je suis allée là où ça me semblait être un petit peu la filière d'élite, donc la finance, et puis j'ai commencé directement, donc j'étais un petit peu auréolée, c'est-à-dire la fierté de la famille. Et puis, ouais. J'ai travaillé pendant 3 ans, donc en faisant de l'audit financier, avec une carrière un peu qui était mais vraiment toute tracée, et tout ça facilement et sans jamais me poser de questions. Et puis, y a eu des voyages, des rencontres, beaucoup de lectures aussi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis un petit peu réveillée. Donc, j'ai enlevé mes œillères. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place, que j'étais finalement même pas qui j'étais. Enfin, j'étais pas Céline, vraiment. J'étais celle qu'on voulait que je sois. Et donc, voilà, je me suis réveillée, j'ai démissionné, j'ai repensé ma vie. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est un peu un cercle vertueux parce que, voilà, j'ai repensé tout. Et finalement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir voyager tout en travaillant. Parce que la carrière vers laquelle j'allais, en tout cas, m'aurait pas permis de voyager comme ça. Donc j'ai tout repensé, et voilà où j'en suis aujourd'hui.
Et tu as écrit dans un article « Ma décision était irrévocable, je voulais vivre et habiter chaque moment de ma vie. Je ne voulais plus d'entre-deux. » Qu'est-ce que ça voulait dire ?
Oui, en fait, les entre-deux, j'en vivais sans arrêt dans ma vie d'avant, si je peux dire. Une journée, je me levais, je passais les 3/4, si c'était plus, si pas plus, de cette journée au travail, donc entourée de collègues avec des sujets qui finalement étaient absolument illusoires. Et puis je rentrais le soir et c'est là que j'étais censée profiter des vrais moments de la vie, des vraies personnes, celles à laquelle je tiens. Et donc c'est ça, en fait, ma vie était composée d'entre-deux, donc je ne faisais que espérer être au moment où j'étais bien. Donc j'espérais être au soir, j'espérais être au week-end, j'espérais être en vacances entre collègues où on faisait que parler des vacances ou du week-end, qu'est-ce qu'on allait faire le week-end ou le vendredi soir. Et en fait, ben voilà, quand j'ai réalisé que j'étais pas à ma place, j'ai aussi réalisé ça, que c'est que ce temps-là, en fait, finalement, ce temps-là qui était de l'entre-deux, ben il était finalement tout aussi ben valable que l'autre, et il passait sans que je puisse vraiment en profiter. Donc j'ai décidé d'arrêter les entre-deux et de vivre, voilà, d'être dans le moment. Ouais.
Ouais, super. Est-ce que tu aurais des conseils pour remettre un peu de valeur dans son quotidien? Juste avant qu'on aborde le sujet du tour du monde en avion, j'ai vu que tu avais fait un article là-dessus pour dire même dans ton quotidien, bah tu peux déjà faire des petites actions quoi pour aller mieux.
Oui, en fait, ben moi ça a vraiment, enfin le fait de remettre de la valeur dans le moment présent, ça a vraiment commencé tout petit et suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et en fait, qui invite à simplement vivre en, enfin, ça paraît de grands termes, mais en fait, c'est très simple. Donc, vivre en conscience. Donc, c'est-à-dire, par exemple, que là, au moment où je te parle, je peux, par exemple, être concentrée uniquement sur ce que je suis en train de dire, parce que c'est un exercice, bah, qui demande de la concentration, etc. Et du coup, ça veut dire que je m'oublie aussi un petit peu, enfin, j'oublie le reste de mon corps. Par exemple, je peux oublier que je suis assise dans telle position. En fait, le fait de vivre en conscience, c'est juste d'essayer d'être en entier dans le moment. Et donc, par exemple, ça, moi, comment j'ai commencé à faire ça? C'est sur le chemin du travail, quand donc j'allais travailler en finance, et je passais par un très joli parc, et donc habituellement je passais à toute vitesse en pensant déjà à tous les soucis que j'allais avoir tout au long de la journée et comment j'allais pouvoir les régler. Et ben au lieu de ça, je marchais et je regardais ce qu'il y avait autour de moi, je sentais les odeurs qu'il y avait autour de moi. Enfin voilà, ça a commencé comme ça. Et puis en fait, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, cette conscience, elle s'insère un petit peu partout. Et au final, le voyage slow, c'est totalement la continuité de ça. C'est-à-dire que voyager slow, ben, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est enlever les entre-deux. Donc il y a pas de notion de prendre l'avion, arriver d'un point A à un point B et zapper totalement le moment du trajet. En fait, le moment du trajet, il est totalement dans le voyage. C'est le voyage. Il n'y a pas de discontinuité, tout est continu, c'est une ligne, ce voyage. Et donc, voilà, on est dans le moment, et donc il n'y a pas un seul moment où on devrait, c'est moins important de sentir l'odeur, de regarder ce qu'il y a autour de soi. Tout est relié, tout est important.
Ouais, super. Du coup, on va parler de ce tour du monde sans avion. Tu travailles, donc t'as quitté ton travail, tu travailles aujourd'hui en freelance en tant que rédactrice web, et depuis le mois d'avril, ton copain et toi, vous êtes partis pour un tour du monde sans avion. Comment est né ce projet? Pourquoi vous avez décidé de boycotter l'avion?
Alors en fait, ce projet, il est né il y a très très longtemps, mais on pensait pas du tout à ne pas prendre l'avion à l'époque. En fait, au moment où du coup j'ai moi démissionné, on s'était... Donc il a fallu que je réinvente mon travail, que je trouve un nouveau travail et donc un nouveau mode de vie qui allait avec ce que je voulais. Bah on s'est dit que on pourrait en profiter tous les deux pour repenser notre mode de travail et donc pouvoir être ce qu'on appelle digital nomade. Enfin on en parle beaucoup en ce moment de ces gens du coup qui arrivent à travailler tout en voyageant et c'est un petit peu l'objectif de vie qu'on avait. Et donc en fait, il y a 2 ans, au moment où voilà, j'ai quitté mon travail et où il a fallu réfléchir à tout ça, on s'est dit, sans vraiment réfléchir à rien, voilà, on va tout quitter et puis on va partir en Thaïlande, mettre les pieds dans le sable et travailler et on sera bien mieux là-bas. Et puis en fait, pendant ces 2 années, l'idée a fait son chemin. Enfin, moi j'ai un blog sur la mode éthique, mais ça fait nous déjà des années qu'on est impliqués dans un mode de vie éco-responsable, zéro déchet. Petit à petit, nos œillères tombent et puis nos efforts sont aussi de plus en plus grands. Enfin, on essaye de toujours faire mieux et un jour, eh ben, il y a ces œillères-là, les œillères du voyage qu'en fait on refusait de voir, qui sont tombées elles aussi. Ouais. Et là, on s'est aperçu que ben mince, en fait, on va peut-être pas prendre l'avion et partir en petits occidentaux riches qu'on est, prendre l'avion d'un coup et puis aller vivre la belle vie en Thaïlande, enfin ça ne ressemble absolument pas à la vie qu'on est en train de construire depuis des années en fait. Et donc on a tout repensé, on s'est dit c'est pas possible, ça ne nous ressemble pas, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place qui nous permette de voyager, de voir du monde, de rencontrer d'autres cultures, de de faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire voyager, mais en limitant notre impact au maximum. Et forcément, bah, le fait d'arrêter l'avion, ça s'est imposé à nous.
Ouais, bien sûr. Et comment vous avez fait du coup pour préparer ce tour du monde sans avion? Parce que vous aviez une maison, c'est ça? Comment vous avez fait du coup? Vous avez tout revendu
On a tout revendu, nos meubles, on a laissé nos minous chez les parents de David. Et puis voilà, et on est parti avec nos deux sacs à dos. On a tout laissé.
C'est pas trop difficile de tout quitter comme ça, en sachant... Parce que là, vous partez, vous avez pas de date de retour.
Ouais, c'est ça.
Vous sentez comment, là?
C'est pas difficile de tout quitter. Enfin bon, évidemment, ce qui est le plus difficile à quitter, mais ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est les proches et nos minous, par exemple. Ouais. Mais bon, même si on part pour une durée indéterminée, on sait aussi que on va rentrer un jour et ça par contre c'est un truc qu'on s'est toujours dit, c'est si jamais il y a une urgence, on prendra l'avion. Si jamais le temps est compté en fait, c'est surtout ça. Nous pourquoi est-ce qu'on prend pas l'avion, c'est parce qu'on a le luxe d'avoir du temps. Et si jamais un jour le temps est compté et qu'il faut rentrer, on prendra l'avion si jamais. Ouais. Mais non, ça n'a pas été si dur que ça, finalement, de se séparer, pourtant de notre maison qu'on aimait beaucoup. Enfin, c'est quand même une sacrée aventure et on est bien heureux d'être là. Donc je pense que ce serait dommage de regretter parce qu'on est vraiment bien là où on est.
Du coup, votre projet de base, alors si j'ai bien suivi, c'est de rejoindre la Thaïlande, donc en partant de France. Actuellement, vous êtes en Mongolie. Alors, quelles sont les alternatives, du coup, à l'avion que vous avez trouvé et que vous avez utilisé jusque-là?
Aujourd'hui, on n'a même plus... L'objectif, c'est même plus d'arriver en Thaïlande. Hein. C'est vraiment de partir à l'aventure. Voilà. Je pense qu'en Thaïlande, on s'y arrêtera un bon moment parce que, oui, effectivement, c'est un peu... ça va être étape un peu pour nous parce que c'est effectivement l'aboutissement du cheminement. Mais on va pas s'arrêter en Thaïlande, ouais. C'est sûr. Les alternatives à l'avion que pour l'instant nous on a utilisé, donc il y a eu le train pour on a mis 2 mois pour traverser l'Europe, donc on a utilisé majoritairement le train grâce à Interrail qui permettent d'avoir des billets de train gratuitement, enfin en fait on paye une sorte d'abonnement et puis ensuite on peut prendre le train de manière illimitée, donc ça permet en fait pas mal de prendre le train et d'aller peu importe où on veut en Europe, enfin c'est vraiment c'est super comme principe. Et donc on a couplé avec le bus aussi souvent, et notamment pour remonter dans les pays baltes, parce que le train là-bas c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on a pris le bus, et puis ensuite en Russie on a pris l'emblématique transsibérien pour traverser toute la Russie. Nous du coup on s'est arrêté, donc on est arrivé à Saint-Pétersbourg, puis on a fait un premier arrêt à Moscou, puis ensuite on a fait un autre arrêt à Yekaterinbourg et un autre arrêt à Irkoutsk avant d'arriver en Mongolie. Mais si on avait fait vraiment d'une traite, je pense qu'il y en aurait eu pour une semaine de train non-stop. Nous en fait on a dû passer au total je pense 5 nuits dans le train.
Ce qui compte, c'est pas la destination, en gros, c'est pas d'arriver, c'est le voyage, en fait. Tout le voyage est important.
Ouais, tout à fait. Le transsibérien, c'est, le temps est long, et donc il faut l'employer, et la plupart du temps, comment est-ce qu'on l'emploie? C'est en rencontrant les personnes qui voyagent avec nous, qui sont dans ce train eux aussi, et qui, pour eux aussi, le temps passe, et le temps passe lentement. Parce qu'au final, les paysages se ressemblent. Enfin, on traverse de Moscou à Irkoutsk, il y a 5000 kilomètres. Enfin, c'est immense. Ouais, les rencontres dans le transsibérien, c'est vraiment quelque chose. Et vraiment, c'est une expérience assez unique.
Génial. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes à Oulan-Bator. Je sais pas si on dit bien. Si je dis bien, en Mongolie, du coup. Ça a été quoi votre itinéraire? Donc là, pour l'instant, vous avez fait l'Allemagne, c'est ça? Après, vous êtes...
Alors, Allemagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Pologne, et puis ensuite les pays baltes. Lituanie, Lettonie, Estonie, et remonter en Russie. J'espère que j'oublie pas un pays, je crois pas.
Super. Comment vous organisez au niveau de vos déplacements? Est-ce que vous avez prévu un petit peu à l'avance ou est-ce que c'est vraiment au feeling? Si vous aimez bien un endroit, vous restez?
Alors, pour l'instant, en fait, on était un petit peu coincé par les visas, notamment le visa russe. En fait, c'est un visa qui est assez, bah, déjà compliqué à avoir, et puis surtout qui est assez restrictif dans le sens où il faut vraiment lui donner les dates d'entrée dans le territoire et de sortie, et on ne nous laisse que 30 jours en tant que Français. On savait à quelle date il fallait qu'on arrive et à quelle date il fallait qu'on soit absolument sorti. Et donc, on savait aussi qu'on n'avait que 30 jours pour traverser le pays le plus long du monde. Mais bon, ça se fait. On aurait pu rester plus longtemps en Europe, mais c'est vrai qu'on avait quand même envie d'arriver en Asie. Donc voilà, ça nous a pris 2 mois à l'Europe, puis ensuite forcément les 30 jours obligatoires en Russie qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps. Et maintenant, on arrive en Mongolie, qui est à nouveau un pays où il faut un visa en tant que Français. Normalement, donc c'est un visa de 30 jours que nous, on va faire renouveler pour pouvoir rester 2 mois. Ça va être tout le temps comme ça en fait. En Chine, c'est pareil. On va essayer de pouvoir rester 2 mois dans le pays et ainsi de suite. On va essayer, je pense, de rester à chaque fois le plus longtemps possible pour justement cette idée du slow, pour avoir le temps de se poser, de s'imprégner un peu des lieux, de comprendre comment ça fonctionne.
Ce que j'allais te demander, c'est quoi pour toi les avantages de voyager slow ?
Moi, je dirais qu'il y a que ça. En fait, à partir du moment où il y a le temps, je pense que on gagne tout à le prendre, en fait. Donc, le premier avantage, c'est ça, c'est de pouvoir se poser et donc, au final, de pouvoir être à son rythme dans un pays qui, de prime abord, n'est pas forcément là pour, ne ressemble pas au rythme habituel. Et pourtant, voilà, quand on peut prendre son temps et donc reconstruire une espèce de routine, on arrive à se sentir bien assez rapidement dans un pays qui pourtant est à l'autre bout du monde avec une culture totalement opposée. Et ça nous permet de mieux pouvoir absorber la culture qui justement est là. Ça, je dirais que c'est le premier gros avantage. Et puis ensuite, l'autre avantage, c'est notamment le décalage horaire qu'on ne ressent pas. Enfin, nous, par exemple, on est déjà... On a gagné 6 heures depuis notre départ de la France. Et à aucun moment, on a ressenti le décalage horaire parce que les heures, elles sont arrivées progressivement. Donc, on les a intégrées petit à petit et ça, on n'a rien senti. J'aurais dit aussi, mais le problème, c'est que tu m'aurais posé la question il y a 3 jours, je t'aurais répondu ça, mais maintenant je peux plus le faire. De la même manière qu'on gagne les heures petit à petit, j'aurais pensé aussi au départ que on rencontrait les bactéries petit à petit. Donc parce que tu sais qu'en général, quand on part, en Asie, on attrape la tourista. Enfin, tout le monde parle de ce genre de maladie. Et moi, je pensais donc du coup qu'en allant de proche en proche, petit à petit, en goûtant les plats petit à petit, des restaurants, etc., que finalement nos estomacs et les bactéries et la flore intestinale se faisaient elles aussi. Mais voilà, il y a 3 jours, j'ai une intoxication alimentaire en sortant d'un restaurant. Donc tu vois, c'est pas forcément.
Mais ça fait partie du voyage. Ça fait aussi partie de l'aventure. Donc là, c'est ce qu'on disait. Ça fait 3 mois. Est-ce que c'est pas fatigant parfois de bouger, parce que vous bougez quand même régulièrement ?
Oui, t'as raison. Les 2 premiers mois là en Europe, ça a été, on a quand même pas mal bougé. Et ça, c'était pour une question, déjà l'interrail qui n'est en fait que sur 2 mois, donc on avait 2 mois pour quitter l'Europe et pouvoir se servir de l'interrail. Et puis aussi parce que voyager en Europe, ça représente quand même un certain budget, parce que nous, on n'a plus de maison, donc on n'a plus de loyer à payer, donc les hôtels et les auberges de jeunesse, c'est notre loyer. En Europe, nos loyers étaient bien plus que des loyers parisiens, quoi. Donc il fallait forcément qu'on avance un petit peu, même si on s'est quand même arrêté 10 jours à Budapest et 10 jours à Cracovie. Donc ça nous permet vraiment de souffler et de pouvoir faire ce que je te dis, donc prendre le temps de reconstruire une routine. Et là, c'est vrai que les 2 mois en Mongolie, ça va vraiment nous faire du bien. Et ça nous tardait un petit peu, et je pense que dorénavant, on essaiera de plus en plus de pouvoir se poser, et c'était aussi ce qu'on était parti faire au départ, parce que mine de rien, nous, on continue à travailler pendant qu'on voyage, donc on a besoin aussi de temps pour ce travail. Donc, et c'est vrai que le fait de bouger beaucoup, c'est difficile à accumuler avec le travail.
Exactement ce que j'allais te demander, parce qu'aujourd'hui, donc toi, tu travailles, enfin vous deux, vous travaillez en freelance, vous travaillez toujours en parallèle donc de ce tour du monde. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser, parce que entre les les changements de lieu, je sais qu'il faut de l'organisation pour parfois réserver des endroits et tout, et puis un petit temps d'adaptation aussi, j'imagine.
Ouais. Ben, en fait, on essaye de travailler le matin et de voyager l'après-midi. C'est une règle qu'on s'est fixée, c'est pas une règle qu'on arrive forcément à tenir tout le temps parce que parfois, ben, on a envie de voyager, enfin, on a envie de sortir parce que c'est vrai que ça, oui. c'est le plus frustrant et le plus difficile, en fait. C'est que, par exemple, on arrive dans une ville, on a 5 jours et on sait que, ben, il va falloir consacrer à peu près la moitié, donc peut-être pas la moitié, mais sur les 5 jours, au moins aller une journée et demie ou deux à travailler. Et c'est vrai que ça, c'est frustrant parce qu'on pourrait avoir envie de les passer à encore plus s'imprégner du lieu. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de se poser plus longtemps dans les endroits. C'est pour partir un peu moins frustré.
Oui, bien sûr. En parallèle de ce voyage et de votre travail en freelance, je crois avoir vu que tu avais un autre projet qui était donc de visiter des usines de confection de vêtements.
Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, la mode éthique, c'est quelque chose qui me passionne et depuis des années. Donc, j'ai ce blog Is Now Good qui sert à informer et à donner des conseils de consommation. Et en fait, je remarque, depuis que j'ai créé ce blog et que j'échange avec mes lecteurs, que la clé et ce qui manque en fait aux gens, c'est le lien qui existe entre les vêtements qu'ils portent et les personnes qui les fabriquent, ces vêtements. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui fait qu'on est capable d'acheter un t-shirt chez Primark à 1 euro, et que derrière en fait parce qu'on sait, en fait, on entend, on voit des reportages, etc. On sait qu'il y a de la maltraitance humaine, des conditions de travail épouvantables. Puis il n'y a pas que le côté humain, il y a aussi tout le côté de destruction environnementale en Asie, etc. Mais pourtant, en fait, on continue à agir. Et alors, la question, c'est pourquoi? Et je pense vraiment que c'est parce qu'on arrive, et Zara et H&M sont bien contents d'avoir réussi à faire ça. En fait, on a totalement occulté que derrière cet objet qu'on achète, ce vêtement, il y avait des personnes, en fait, des petites mains. Derrière chaque couture, il y a une personne, en fait.
Et on s'imagine pas non plus dans quelles conditions. Enfin, on s'imagine, mais c'est vraiment vrai s'imaginer. C'est encore flou, tu vois, c'est lointain.
Oui, oui, totalement. Et même si on les voit en images, c'est difficile de faire la corrélation avec le vêtement qu'on porte. Et le fait, en fait, d'amener tout le monde dans nos valises et de faire voir à travers nos yeux ce qu'on voit et ce qu'on constate. J'espère, c'est l'idée en tout cas de départ, que peut-être ça va retisser ce lien et peut-être initier un peu le changement. Enfin, de toute façon, dès le départ, mon blog, c'était pour aider à prendre conscience et puis ensuite à changer. Je pense qu'en arrivant en Asie, on a déjà visité un atelier textile en Pologne, qui avait aussi des conclusions assez assez impressionnantes, mais qui seront pas, je pense, à la mesure de ce qu'on va constater en Asie. Et oui, je pense que ça va être super intéressant.
Quel est l'impact de ce voyage sur ta vision de la vie? Est-ce que ça l'a impacté?
Oui, je dirais que je me pose pas mal la question justement en ce moment du voyage en lui-même, parce que comme je t'ai dit, ça fait des années en fait qu'on a mis en place un mode de vie qu'on veut zéro déchet, qu'on veut avec un impact vraiment limité, etc. Et que en fait, une fois qu'on avait notre maison et nos petites habitudes et notre routine, on avait vraiment quelque chose qui tournait bien et on arrivait à quasiment pas consommer de plastique. Enfin voilà, on avait vraiment plein de choses qui fonctionnaient très bien et qui roulaient à la merveille. Et en fait, depuis qu'on est parti, même si on fait tous les efforts du monde, on sait que notre impact est bien plus élevé. On peut pas construire de routine, non seulement on peut pas construire de routine, et donc par exemple les marchés de producteurs sont plus difficiles à trouver, les magasins de vrac, on n'arrive pas forcément à les trouver, ils n'existent pas forcément, et en plus voilà, on est en train d'arriver aussi dans des pays où, par exemple en Russie, on ne recycle pas, il n'y a pas de moyen de recycler, donc en Mongolie oui, par contre bravo, félicitations, on est bien contents de retrouver des poubelles de tri. Mais en Russie, par exemple, on recycle rien. Et donc, on sait, par exemple, qu'en arrivant en Russie, tout ce qu'on a consommé qui était normalement recyclable, si on l'avait consommé en France, ça aurait été recyclable. Et maintenant, voilà, quand on est, nous, en Russie, on crée ce déchet. ça remet un petit peu en question, je trouve. Enfin, je sais pas, je me demande, est-ce que finalement, il vaudrait pas mieux rester chez soi? Alors, enfin, je sais pas, c'est très compliqué comme question, parce que forcément, je suis l'une des premières à vanter le voyage comme l'ouverture d'esprit, rencontrer les autres, apprendre. Oui, mais voilà. Est-ce que d'un côté, la balance, est-ce que ça en vaut la chandelle ou pas? Enfin, ça, voilà, ça me fait poser de vraies questions. Est-ce que finalement, ce qui agirait le mieux, ce serait pas ceux qui sont en train de cultiver leur jardin pour cet été et qui vont manger leurs propres légumes en restant dans leur maison, en prenant leur vélo pour aller faire une promenade, je sais pas, à 100 km de là?
Ah, c'est une question très intéressante. En même temps, si toi tu peux apporter peut-être, je sais pas comment dire, tu vas pas apporter de la connaissance, mais parce que tu vas voir en Asie, je sais pas si t'as déjà été en Asie.
Non, mais, c'est la première fois.
Enfin, par exemple, ouais, Asie du Sud-Est, le plastique il est omniprésent, mais partout. Tu vas commander du riz, ils vont te le servir dans un sachet plastique, ils vont te mettre la sauce dans un sachet plastique, ils vont te mettre les petits légumes dans un sachet plastique, et en fait, mais ils font ça, mais partout, et c'est normal pour eux. Des fois, je me dis que ne serait-ce que d'essayer, alors à ton échelle, et bien sûr, il y a encore ce truc du sauveur blanc qui arrive en mode « c'est pas bien le plastique !» Donc ça, c'est encore autre chose. Je sais pas, de se dire, bah peut-être que en essayant de faire changer les habitudes, par exemple, je vois à Bali, ils ont mis en place des choses où ils utilisent du coup, plus pas en plastique, mais en bambou, voilà, parce que les gens étaient en demande, finalement. Mais c'est vrai que c'est des questions, parce qu'en même temps, bah oui, il y a énormément de touristes, et c'est pour ça aussi qu'il y a du plastique.
Oui, c'est très compliqué hein, comme question. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas la réponse. Hein. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram, et ce qui était ressorti, c'était aussi que les gens n'ont pas envie tout de suite de s'enfermer dans leur maison et de cultiver leur jardin. C'est pas de ça. Enfin, disons que c'est peut-être trop extrême, et eux, ils étaient bien contents d'avoir un modèle de pouvoir voyager de manière slow, parce que finalement c'est pas difficile hein. Sincèrement, nous on n'a rien fait de mieux que les autres. Si nous on y arrive, tout le monde peut y arriver. Prendre ce rôle d'exemple, pourquoi pas? Mais bon, voilà, j'ai quand même dans l'idée que même si on joue peut-être ce rôle et que c'est vrai, il y a plein de gens qui m'ont dit que cet été finalement ils allaient rester en France, ils allaient faire une petite balade à l'autre bout de la France, en faire du camping, que ça allait être complètement fou, et c'est vrai. Je sais aussi que en étant partie, et c'est totalement d'ailleurs une décision égoïste qu'on a prise, enfin on est partie pour nous, je sais qu'en étant partie, on a un impact bien supérieur à ce qu'on aurait pu avoir en restant chez nous. On verra à la fin du voyage si la pesée entre les plus et les moins.
D'accord. Et justement, est-ce que vous envisagez, parce que là vous n'avez pas de date de retour, est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter dans un retour ou pas du tout?
On envisage peut-être un retour en faisant une sorte de boucle, en repassant par la France. Donc une fois qu'on en aura eu assez de l'Asie du Sud-Est, si un jour ça arrive, on repartirait en repassant par l'Inde, l'Asie mineure, l'Europe centrale, etc., pour repartir en France, et puis ensuite, pourquoi pas. Et là, d'ailleurs, c'est un moyen de ne pas prendre l'avion dont je ne t'ai pas parlé, faire du bateau-stop jusqu'au continent Amérique. En fait, le bateau-stop, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Enfin, nous, on a rencontré plusieurs voyageurs déjà qui l'ont utilisé. Les voiliers ont des équipages, et souvent, ils ont besoin de recrues pour faire la cuisine ou aider au ménage ou aider de ci, de là. Et donc, c'est un moyen, en fait, de participer un petit peu à l'équipage pendant la durée du voyage et d'avoir sa place dans le voyage. Et donc, c'est aussi une expérience assez extraordinaire. Enfin, je suppose, on l'a pas encore vécu, mais je peux qu'imaginer. Donc, en fait, il existe des sites internet qui mettent en relation, enfin, un peu comme Blablacar, hein, qui mettent en relation, voilà, les capitaines de bateaux qui recherchent. Donc, voilà, probablement qu'on ferait ça.
Ok, bah super. Parce que j'ai vu aussi que ça existait avec les... Je crois que tu en avais parlé sur ton blog avec les cargos, où tu peux participer, tu peux aller à bord d'un cargo.
Pour des questions, disons, écologiques, c'est quand même mieux de monter sur un voilier que sur un cargo qui va nuire forcément à la faune marine et à la flore d'ailleurs aussi. Puis en plus de ça, monter dans un cargo, c'est vraiment très très cher. Il y a à peine quelques places et c'est des places qui sont vraiment réservées un peu façon hôtel de luxe. Pour traverser l'océan Atlantique, ça vaut à peu près 2 000 €. Alors que le bateau stop, selon le capitaine, donc ça peut être vraiment gratuit en échange de service, ou alors moyennant vraiment un tout petit quelque chose pour, par exemple, la nourriture qu'on va manger sur le bateau. Mais c'est vraiment pas comparable quoi au niveau du prix.
Mais justement, on parle de prix, et là il y a une question qui me vient, c'est que on sait que le train coûte plus cher que l'avion. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui disent « oui, mais ça coûte beaucoup plus cher de prendre le train qu'un avion ?»
Bah, qu'ils ont raison. Non, malheureusement, oui. En fait, tant que le kérosène ne sera pas taxé, l'avion sera toujours beaucoup moins cher que le train. Et en France, c'est exorbitant. C'est beaucoup, beaucoup moins cher de prendre l'avion pour faire Bordeaux-Paris que de prendre le train. Enfin, c'est inouï quand on y pense. Bon, après, voilà, donc il existe les passes Interrail. Bon, même si c'est des passes qui ont quand même un certain coût, hein, mais quand on veut, faire le tour de l'Europe ou alors passer, par exemple, se concentrer sur un pays, faire l'Italie en 2 mois, ou même la France en 2 mois, le passe Interrail peut permettre de rendre le train accessible. Mais c'est vrai que le train coûte beaucoup plus cher et plus on va vers l'Est, moins c'est le cas. Mais en tout cas, en Europe occidentale, c'est vrai, et on peut rien dire contre ça, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher de prendre l'avion. Chacun fait ce qu'il peut, bien sûr, et le tout, c'est de le faire en conscience et de faire de son mieux.
Tu disais tout à l'heure que tu as mis en place des petites habitudes, en fait, dans ton quotidien, et que quand tu voyages, tu as toutes tes habitudes qui sont chamboulées. Est-ce que tu aurais des astuces pour mettre des choses en place pour voyager de manière plus écologique ?
Alors, je dirais que la première chose, c'est la gourde. Mais ça, dans la vie quotidienne aussi, hein, il faut arrêter avec les bouteilles d'eau. Ça, c'est vraiment le truc. Arrêtons avec les bouteilles en plastique. Surtout en France, où l'eau du robinet est totalement potable. La gourde, c'est vraiment le premier objet à avoir quand on veut voyager écologique. Et s'il faut pas surtout oublier de coupler la gourde avec un système pour traiter et purifier l'eau, surtout quand on va donc dans des pays comme nous, là on s'achemine vers l'Asie, et ça commence d'ailleurs dès la Russie, où l'eau du robinet n'est tout simplement pas potable. Et donc, on est bien malin si on a juste une gourde, on sera de toute façon obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Donc il faut forcément un moyen de purifier l'eau. Donc nous, on a acheté le purificateur d'eau, c'est de la marque Life Straw, et qui permet à la fois de filtrer les bactéries et les virus. C'est assez rare, en fait. Surtout les virus, qui sont vraiment beaucoup plus petits que les bactéries. Donc, en général, les filtres ne les filtrent pas. Et donc, le Life Straw les filtre. Et puis, à ça, en fait, et ça, c'est quelque chose à quoi on n'avait pas pensé, mais c'est, si on devait refaire, on le prendrait avec nous. Pour la Russie, en fait, le problème, c'est pas les bactéries et les virus qui sont présents dans l'eau, c'est les métaux lourds et les pesticides qui sont absolument pas traités.
Ah oui.
Et donc, il faudrait en fait coupler à ça une solution avec du charbon actif. Voilà, donc, normalement, pour le problème de l'eau, et qui, selon moi, est vraiment l'un des problèmes majeurs, les bouteilles d'eau, c'est le gros problème aujourd'hui, mon premier conseil, c'est la gourde plus le purificateur d'eau plus le charbon actif si on va dans des pays par exemple comme la Russie ou même la Chine. La Chine, à mon avis, au niveau retraitement des pesticides, etc., c'est pas le mieux.
Et je sais aussi que moi j'avais à un moment donné des petites pastilles comme ça à mettre dans l'eau qui se dissolvent. Est-ce que ça t'as testé aussi ?
On n'a pas testé, mais ça fonctionne exactement comme notre purificateur d'eau. C'est-à-dire que ça va filtrer de la même manière les bactéries et les virus. Ça marche très bien. Enfin, pour avoir rencontré pas mal de voyageurs qui en utilisent, ça fonctionne aussi très bien. Deuxième conseil, c'est de refuser systématiquement la paille. De surtout de la refuser avant de commander, parce qu'une fois qu'elle est dans le verre, c'est trop tard. On n'y pense pas forcément, depuis qu'on est parti, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec une paille dans le verre. C'est difficile d'être sur le qui-vive tout le temps, et c'est aussi pour ça que le voyage entraîne davantage de déchets. C'est parce que le voyage nous met dans des situations où on n'est pas, c'est pas routinier, donc on peut pas être sur le qui-vive tout le temps.
Ouais, ça demande beaucoup d'attention, surtout dans les pays où voilà, c'est le plastique, c'est la logique.
Oui, totalement. Parfois, il faut se battre pour pas qu'on nous donne un sac en plastique. Hein. Enfin, vraiment, c'est. Oui. En fait, ils ne comprennent pas. Et c'est vrai que, comme tu disais, peut-être que s'il y a des touristes qui refusent le sac en plastique et qui en plus expliquent pourquoi, peut-être que l'idée ici aussi peut faire son chemin. Et parfois, il suffit de peu de choses. Enfin, même moi, je vois sur comment petit à petit j'ai fait des efforts dans ma vie. Parfois, c'est venu d'une réflexion de quelqu'un ou d'un geste de quelqu'un et qui m'a fait me poser des questions. Mais bon, c'est vrai que là, on part de vraiment très loin. On parle de, oui, par exemple, en Russie, on parle de pays où il y a carrément pas le tri. Il n'y a pas le tri des déchets. Enfin, c'est remonté 50 ans en arrière. C'est vrai que c'est assez dingue, ça, ouais.
Tu parlais aussi de contenants, je crois.
On a pris des Tupperware qui nous servent, souvent, très souvent même. Quand on veut manger, par exemple, dans un stand dans la rue, au lieu de prendre ce qu'ils vont nous donner, donc ça peut être des boîtes en carton ou n'importe quoi, on leur propose nos contenants, ils peuvent mettre dedans, et ça nous permet aussi de faire les marchés locaux, quand on arrive à les trouver, et quand ils existent, et quand on a le temps, et quand on est là le bon jour. Mais voilà, ça, on peut faire notre marché comme on aurait fait dans notre petit village en France, grâce aux contenants qu'on a amenés.
Super, c'est une très bonne idée, je n'avais pas pensé et je pense que je vais faire ça pour le prochain. Quels sont tes exemples ou tes conseils pour mettre en place des petites choses? Parce que devant tu vois, l'ampleur des changements qu'il y a à faire, même au quotidien en France, hein, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, des petits pas en fait, pour changer nos habitudes sans que ça nous fasse trop peur, quoi.
C'est vrai que, enfin, moi, la théorie des petits pas, c'est vraiment une théorie en laquelle je crois, parce que sans avoir voulu l'appliquer, c'est comme ça que mon chemin s'est fait. Enfin, ça a pris des années et des années, et j'y suis allée petit à petit. En fait, ma transition écologique et tous mes petits gestes, enfin, c'est vraiment allé très progressivement, et en fait aujourd'hui je sais que c'est grâce à ça que c'est solide et que jamais je pourrais revenir en arrière. Donc moi j'y crois très très fort en la théorie des petits pas. Après je dirais que il y a pas de règles, en fait c'est justement la théorie des petits pas, elle est là parce qu'elle s'applique à chacun, et en fait c'est à chacun de savoir par où il a envie de commencer. Donc ça peut être par la mode, ça peut être par l'alimentation, par les produits de beauté qu'on va s'appliquer sur le corps, ça peut être pour la maison, ça peut être même pour le plastique, enfin pour arrêter le plastique, ça peut être vraiment plein de choses en fait, je sais pas, arrêter la viande, enfin ça peut être tout un tas de choses, mais c'est vraiment en fonction de soi. Et en fait petit à petit, une fois qu'on a mis le pied dedans, une fois qu'on a décidé d'agir pour quelque chose qui nous tient à cœur, ben petit à petit, les œillères vont s'ouvrir et ben on va avoir, une fois que le petit pas va être bien acquis, ben on va pouvoir en faire un deuxième, puis gravir les escaliers comme ça petit à petit, et ça va s'ouvrir progressivement. Mais vraiment, mon vrai conseil, c'est de commencer par quelque chose en quoi on croit vraiment et qui est accessible. Il n'y a pas besoin de commencer très fort, très haut. Il faut vraiment commencer même tout petit. Et que nous, avant de voyager sans avion, on voyageait avec avion, et pendant qu'on faisait ça, on faisait des efforts ailleurs. Et aujourd'hui, on voyage sans avion. Chacun commence où il veut, et pour au final, voilà, on va tous arriver au même endroit pour réinventer la société et un nouveau monde pour demain.
Mais c'est super d'avoir un exemple et de montrer que c'est possible, en fait, c'est ça. Donc c'est merci beaucoup de montrer ce chemin. J'ai deux petites questions de fin. Alors du coup, là, j'ai vu que vous êtes en Mongolie. J'ai vu dans ton dernier post Instagram que tu avais décidé de ne pas prendre de 4x4, mais plutôt des vélos. Alors pour visiter quoi, je ne sais plus.
En Mongolie, c'est bien simple. Il y a la capitale, Oulan-Bator, où là on est en train de préparer le voyage, et puis ensuite il y a juste de la steppe.
Voilà, c'est ça, la steppe, exactement.
C'est des paysages à n'en plus finir, grandioses. Il y a absolument que ça en Mongolie. En fait, c'est un pays qui est totalement vierge. Et encore totalement délaissé par le tourisme, donc il n'y a absolument que des paysages là-bas. Donc on va prendre nos VTT, et puis On va gravir, on va parcourir des kilomètres. Ça va être génial, je pense. On va partir 4 semaines, on pense.
4 semaines, ouais. Ah waouh, ouais. Quel courage.
Oui, pour l'instant, c'est vrai que j'en parle avec des étoiles dans les yeux, mais je pense que quand j'aurai mal aux fesses après 3 jours sur le vélo, je regretterai peut-être un peu, mais bon, il paraît qu'on s'y fait.
J'ai hâte de voir ton retour là-dessus. J'ai ma dernière question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la vraie vie ?
Oui, la vraie vie, en fait, ça me parle pas mal, justement. Et pour en revenir à ma première vie, celle où j'étais auditrice financière dans la finance et où je me promettais une carrière grandiose, ça, pour moi, c'était pas la vraie vie. C'est aujourd'hui que je vis ma vraie vie parce que je suis vraiment moi. Et je ne suis pas celle que les autres veulent que je sois. Et je crois que c'est ça, la vraie vie, c'est de réussir à comprendre qui on est et de faire les choses comme on les entend et toujours en faisant de son mieux, mais d'être soi. Et je crois que c'est ça, la vraie vie.
Super. Merci beaucoup, Céline. Et vous partez demain, non ?
Non, on part...
Merci d'avoir écouté cet épisode de De Vraie Vie. J'espère qu'il vous aura grandement inspiré et aidé dans votre propre processus. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un commentaire sur iTunes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @devraievie, mais aussi Twitter ou Facebook. À très vite !